48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bien le bonjour à tout le monde, bienvenue pour le mag de 48 FM, un 57e mag, 57 Guillaume, c'est ça ?
57, effectivement.
Bien le bonjour Guillaume, tu vas bien ?
Bonjour, ça va, ouais, un peu la course, mais beaucoup d'émissions cette semaine, mais tout va bien.
Voilà, et là on va se poser avec, comme d'habitude, trois invités qui sont cinq aujourd'hui, on change un peu justement nos habitudes. Et deux saisons culturelles, ça va être un mag surtout culture aujourd'hui, tout d'abord la compagnie du Lézard avec Sophie Baroul, vous en avez l'habitude, bonjour Sophie.
Bonjour.
Qui vient avec Annabelle Mériot, c'est ça Annabelle ?
Oui, bonjour.
Bonjour Annabelle, donc la compagnie du Lézard. On va faire un point sur la suite de la saison culturelle et également des stages, vu qu'il y en a ce week-end, et un spectacle qui va arriver le 8 février. Marie-Pascale Vincent, nous la connaissons, nous, en tant que journaliste Sevenol, qui est également écrivain et qui vient d'éditer un livre chez L'Armatan qui s'appelle « Paroles de Tunisienne, le mur de la peur est tombé ». Bonjour.
Bonjour.
Donc on va évoquer ce livre dans cette émission également, peut-être ceux d'avant qui sont toujours en vente et qu'on peut se procurer, je suppose, sur Internet et chez votre éditeur.
Voilà, ainsi qu'on peut les commander dans les librairies également.
Voilà, oui. Donc on en parlera après la page consacrée à la compagnie du Lézard et on finit en beauté, et bien sûr, avec l'association Rude Boy Crew, vous en avez l'habitude, nos amis du Blémar, qui viennent de sortir enfin, ces feignants, leur saison culturelle qui va démarrer très prochainement, qui a d'ailleurs peut-être démarré. Sébastien Kuhn, bonjour.
Bonjour, ça a démarré dimanche.
Voilà, ça a démarré dimanche, ça va se poursuivre. Nous avons également de l'association Rude Boy Crew, Sophie Arlotto, qui s'occupe de tout ce qui est scénographie. Bonjour Sophie, c'est ça ?
C'est ça, et bonjour.
Voilà, scénographie visuelle, on en parlera dans cette troisième partie d'émission. Allez, on commence avec Badarou, du côté de Badarou, la compagnie du Lézard qui était venue en tout début de saison nous présenter les premiers spectacles qui se sont bien passés, Sophie ?
Ben, en fait, donc malheureusement, le spectacle du 23 novembre avec Galim a été annulé en raison de la neige, parce que voilà, nos artistes venaient de Marseille et elles ont un peu craint voilà, de monter jusqu'à chez nous. Mais samedi 11 janvier dernier, on a fait donc une soirée repas spectacle qui était voilà, qui a été une grande réussite. Et voilà, les gens étaient ravis du spectacle, du repas. Donc voilà, on était très contents et puis bien sûr, on était complets.
Voilà, mais c'est l'objectif de proposer une saison culturelle, c'est de pouvoir justement attirer du monde. Les stages aussi, vous avez commencé cette année à proposer des stages qui prennent au fur et à mesure de l'ampleur, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai qu'on a des stages qui fonctionnent très bien, notamment sur la danse. Donc on avait fait pas mal de stages salsa, flamenco. Et ce week-end, donc, il y a un stage tango qui est complet, de chez complet, voire même dépassé. Voilà, on a dépassé la jauge. Donc voilà, donc on est ravis. Et c'est vrai que bah oui, ça prend de l'ampleur et c'est vrai que la danse attire énormément de monde.
Voilà, des stages de danse, il y avait eu du flamenco précédemment, là c'est du tango qui est complet. Il y a un autre stage également qui n'est pas complet à 21h
Il y a alors donc pour ce week-end en fait il y a une milonga, donc une milonga c'est un bal tango, donc là c'est ouvert à tout le monde, c'est pas simplement ouvert aux stagiaires, donc c'est samedi soir à 21h.
Y compris ceux qui savent pas danser le tango ?
Y compris ceux qui savent pas danser le tango, parce qu'on a l'impression que le tango ça pourrait être un milieu fermé, en fait pas du tout, les gens sont très sympas, il y a des cavaliers, des cavalières qui seraient ravis de partager leur passion donc avec des débutants, et voilà, il y a même une jeune fille qui va fêter son anniversaire ce soir-là et qui a invité du coup tous ses copains et qui savent pas forcément danser le tango, donc voilà, donc ça peut être une soirée, c'est une soirée très sympa, voilà.
Et voilà Sébastien, t'as pas encore de spectacle, tu pourras aller danser le tango.
Moi, je ne suis pas du tout débutant, donc je pense que je n'aurai pas ma place là-bas.
Ah, c'est possible. Les spectacles qui arrivent, 8 février, prochain spectacle, s'il neige pas, peut-être.
Bah, c'est Anaëlle qui va vous en parler, peut-être le mieux.
Alors oui, le 8 février, donc, Alain Jahan viendra de Paris, exceptionnellement, spécialement pour une soirée chez l'habitant, donc, qui se déroulera chez... Une personne de Mandre, enfin, le lieu n'est pas encore bien défini, mais Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de l'association du Lézard. Donc la soirée commencera à 20h et Alain Jahan nous présentera différentes poésies. Donc c'est un conteur de poésie, donc il nous contera des textes très populaires comme De Vos, Hugo, Prévert, La Fontaine, Musset, Baudelaire, Rimbaud ou encore Verlaine et Corneille. Mais il cite également des textes de chansons. Donc, par exemple, Renaud, Brel, Brassens, Dabati, Nougaro ou encore Grand Corps Malade. Donc, ça sera une soirée conviviale et donc assez exceptionnelle. Voilà, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment... il y aura également une buvette et des petites douceurs qui seront offertes à l'occasion. Et donc si
pour préparé par Sophie,
voilà,
sûrement pas.
Non, pas cette date-là.
Non.
Et c'est déclamé ces textes. Ces textes, ils vont être déclamés. Il y a un fond musical. Il y a.
Oui, alors il y aura bien sûr. Ça sera sur un fond de chansons. Ça sera pour être vraiment dans l'ambiance et le tout donne un. Ça sera dans un contexte vraiment chaleureux et convivial et. Et donc, pour tous les fans ou de Renaud, Brel, Brassens ou autres, ou même simplement les curieux qui veulent découvrir, qui veulent passer une bonne soirée, ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Les réservations se font en contactant l'association du Lézard. Voilà, donc pour plus d'informations, n'hésitez pas également à faire un tour sur le site de l'association du Lézard où il y a des vidéos sur cette soirée.
D'accord, Alain Jahan est connu. Comment vous avez choisi ce conteur-là?
Alain Jahan, en fait, on l'a rencontré par hasard. On jouait au Vence. Et en fait, on était dans un contexte de Noël, troisième âge, pour le village, tout ça. Et en fait, il y a eu une panne de DVD et ce monsieur, en fait, a fait une improvisation totale. Il s'est levé et il a déclamé des textes de De Vos et on a trouvé ça vraiment super. Surtout, voilà, improviser comme ça, se lever et puis improviser. Les gens étaient bien sûr ravis. Donc voilà, donc du coup, on l'a contacté. Donc c'est vrai qu'il y aura une partie de texte que c'est lui qui l'aura choisi pour dans le cadre d'un spectacle. Et puis après, donc on fera une petite pause. Et ensuite, on fera à la carte, c'est-à-dire qu'on proposera aux gens de choisir un texte parmi ceux qui seront sur une liste. Donc, on a envie de faire ça sur une forme de menu avec entrée, plat, dessert, enfin voilà, pour rester dans un côté un peu gourmand et sympathique. Donc, aussi faire participer le public, pour essayer de donner un peu d'interactivité à ce spectacle. Voilà.
Alors, vous nous avez dit les contacts, on va les donner tout de suite et puis on les redonnera tout à l'heure. Pour rejoindre la compagnie du Lézard,
festivaldolt.org
pour réserver. Tout à fait, c'est ça. Donc pour réserver, c'est ça. Non, en fait, les réservations sont obligatoires parce que chez l'habitant, bien sûr, jauge limitée et extrêmement limitée. Donc pour réserver, c'est 06 80 55 41 41. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un mail à compagniedulezard@orange.fr.
Et le site internet?
Le site internet, c'est www.compagnie-du-lézard.tk.
D'accord, donc ça, c'est chez l'habitant. Vous êtes encore en train de chercher le lieu?
On a trouvé. Ah. On a trouvé une habitante. Ça y est, une habitante et un habitant qui ont bien voulu ouvrir les portes. Donc voilà, à Badarou. Donc quand vous nous appelez, on vous donnera l'adresse et pour y aller.
Pour y aller.
Voilà.
C'est compliqué de trouver des habitants qui ouvrent leur maison pour accueillir des spectacles comme ça.
C'est pas simple. Souvent, on trouve à la dernière minute, mais on trouve toujours des gens chaleureux et qui sont partants après pour le projet, qui disent moi pourquoi pas, mais je savais pas ou voilà. C'est pas vraiment c'est pas des gens fermés quoi. Voilà, c'est vraiment.
Peut-être de proposer un spectacle comme ça, ça va aussi permettre à des spectateurs de se dire oui, j'aurais pu le faire chez moi. C'est pas.
Si... Tout à fait, tout à fait. On espère.
Ça permet ça aussi, ça permet une ouverture. C'est un des objectifs de la compagnie du Lézard, d'ouvrir les gens les uns aux autres.
Oui, tout à fait. Bah oui, bah c'est créer du lien en fait. On a créé la saison culturelle aussi pour créer du lien parce que beaucoup de gens trouvaient que ils n'avaient pas de lieu pour se retrouver, pour discuter, pour échanger. Donc en fait, la saison culturelle aussi, ça a servi à ça, ça a servi à des gens pour se retrouver. Et puis nous aussi, avec notre équipe de bénévoles, ça leur a permis aussi de se solidariser, de vraiment pouvoir être ensemble. Et ça aussi, ça fait partie de la vie du village. Donc voilà, on y contribue un petit peu grâce à la saison culturelle.
Rappelle-nous combien de bénévoles
Ils sont une quinzaine à peu près.
Une quinzaine,
ouais, oui. Une quinzaine, très actifs et voilà, ils sont vraiment super.
D'accord, très bien. 8 février, donc prochain spectacle, on a bien compris, il faut se dépêcher, la jauge est limitée. Suivra ce spectacle plutôt stage ou plutôt autre spectacle après le 8 février?
Il y a encore un stage encore de un flamenco. Stage.
Ah, de flamenco.
Voilà, il y a la dernière session, le 22 et 23 février. Voilà,
donc... Ça veut dire qu'il faut avoir fait la première ou pas?
Non, pas du tout. On peut venir voilà, sans avoir fait les autres. Voilà, bien sûr, bon, ceux qui ont fait, ça leur permet d'avoir amélioré, d'améliorer certaines choses. Mais ceux qui n'ont pas fait, ben, voilà, ils prendront le train en route. Et puis Lorenzo est un excellent pédagogue. Et vraiment, il est passionné de son art. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, c'est quelqu'un qu'on adore à la compagnie, Lorenzo Ruiz, donc qui vient faire les stages de flamenco. C'est vraiment quelqu'un qu'on adore. Voilà.
Très bien, on va poursuivre alors avec le 21 avril, non, le 22 mars d'abord.
Le 22 mars. Donc le 22 mars, ben, ça sera la Maison qui tient chaud. La Maison qui tient chaud qui est passée le 9 novembre, je crois, à Langogne. Voilà, qui faisait la première partie de Alexis HK. Donc pour ceux qui ont raté Alexis HK et donc la Maison qui tient chaud, ben voilà, séance de rattrapage à Badarou le samedi 22 mars à 20h. Et puis pour ceux qui ont envie de revoir la Maison qui tient chaud, ce groupe qui est vraiment sympathique, voilà, de garçons, vraiment, quatre garçons dans le vent, moi je les appelle, et qui sont vraiment sympathiques, ben voilà, vous pouvez venir à Badarou. Et donc il y aura donc ce concert, et puis il y aura également une exposition d'émaux sur cuivre et des esquisses présentées par Jacques et Geneviève Cordonnier, voilà, qui viennent de Montpellier.
D'accord, et tu avais pu aller à Langogne les voir ou tu les avais vus?
Et non, malheureusement, non, j'ai pas pu aller à Langogne.
Sébastien non plus, Alexis HK non?
Non plus, non.
Ouais,
non.
J'aurais adoré aller voir Alexis HK. Et oui, donc je suis allée non sur leur site et c'est vrai que j'ai découvert un groupe vraiment fantastique. Puis voilà, avec beaucoup de dynamisme, tout ça qu'on retrouve dans leurs chansons. Donc voilà, j'ai adoré.
D'accord, c'est le deuxième concert. Il y avait eu un concert en ouverture de saison, il me semble.
Oui.
Et Galim a annulé, donc c'est le deuxième concert.
Voilà, ça sera le deuxième concert, tout à fait.
Ok. Ensuite
Ensuite, pour la première partie de l'année, ça sera voilà tout. Et puis ensuite, il y aura le samedi 12 avril, où là, il y aura une grosse journée autour de la poésie en partenariat avec l'inspection académique. Et puis le soir, on aura un concert pour enfants. Donc là, c'est à partir de 18h. Attention, parce que souvent, les gens ont l'habitude de 20h, 20h30. Là, c'est 18h, parce que c'est pour les enfants. Ignatius et les frères Makwaya. Comment vous faites chez vous? Et en fait, donc, Ignatius est européen, et les frères Makwaya sont africains. Comment ils ont appris la musique chacun de leur côté? C'est ça, le spectacle. Et c'est vraiment un spectacle très pédagogique, mais aussi très amusant, très ludique. Et on a adoré parce que Ignatius est un inventeur d'instruments. Et les frères Makwaya aussi sont des inventeurs d'instruments. Donc voilà, ils amènent le soleil, la bonne humeur. Et donc pour les enfants, on a trouvé que c'était vraiment très sympathique. Et bien sûr, leurs textes sont pleins de poésie et d'imagination. Voilà.
Donc ça, c'est en lien avec la direction des services académiques de Lozère, c'est ça?
Tout à fait. En fait, donc, durant la journée, il y aura donc, des élèves qui vont présenter des textes poétiques autour de la gourmandise. Et le soir, donc, on clôturera cette journée par le concert. Voilà.
D'accord. C'est nouveau, ces partenariats avec...
Oui, c'est cette année. C'est donc Evelyne Soracci qui nous a contactés, qui souhaitait travailler avec nous. Et donc, voilà, donc on a répondu présent. Et donc, voilà, David va travailler donc avec plusieurs écoles donc sur déclamer de la poésie. Puis aussi, il y a de la poésie. Poésie se chante, donc aussi. Donc, voilà, il y en a aussi qui chantent voilà, des textes. Voilà.
D'accord. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Compagnie du Lézard travaille avec les enfants sur la commune de Badarou ?
Oui, sur la commune de Badarou, sur la commune de Mende également.
De Mende également, ouais, d'accord.
Voilà, on a travaillé à Chabry aussi.
Vous faites quoi, des initiations
Oui, voilà, bah, ce sont des petites initiations sur une durée de 7-8 semaines à peu près. Et puis on fait une heure et demie. Ça dépend aussi, bon, y a pour les maternelles, on fait des petits 3 quarts d'heure, voilà, 2 fois dans la semaine pour leur initier un peu au théâtre.
La semaine prochaine, un mag spécial un petit peu justement autour de ces questions d'éducation.
Voilà, un mag spécial sur la loi de refondation de l'école avec donc Madame Lombardi-Pasquier, la DAZEN, la directrice des services académiques de l'éducation nationale de la Lozère, également une institutrice et la mairie de Montrodat qui viendra nous parler de la réforme qu'eux mettent en place, à savoir les difficultés auxquelles ils sont rencontrés, leurs relations avec les parents, avec les animateurs de structure, etc. Et donc un mag
mardi prochain.
Spécifique mardi prochain de 12h30 à 1h30, toujours comme celui-ci. D'accord, donc les enfants, ils viennent à vos spectacles depuis le début de la saison, c'est familial.
Oui, c'est souvent assez familial. Les enfants, ils viennent, voilà, avec leurs parents. Ça fait une petite école du spectateur aussi pour nous. On trouve que c'est sympa. Puis c'est vrai que comme on a des ateliers à Badarou pour les enfants, ça amène aussi un public, avec ces enfants-là aussi qui participent également au spectacle.
Très bien. Marie-Pascale, on a le temps d'aller voir des spectacles quand on a un emploi du temps où on doit aller en Tunisie, on revient, on était au Burkina, on a le temps quand même ?
Oui, bien sûr. D'abord par plaisir et puis après parce que c'est indispensable. Ça nourrit aussi l'écriture, les rencontres qu'on peut faire avec les autres.
Des stages d'écriture, non, c'est pas prévu chez vous ?
Non, mais il y a un stage de chant.
Il y a un stage de chant,
oui. Un stage de chant, 5-6 avril.
D'accord, 5-6 voilà. Avril.
Et d'ailleurs, dans le cadre du 12 avril aussi, il y aura un rendu de ce stage, donc à travers des chansons, voilà.
Ok, très bien. Le 17 mai.
Alors, le 17 mai, là, c'est l'atelier de Badarou.
Voilà, ça, il faut préciser que...
Ouais. Alors là, l'atelier de Badarou, donc, c'est encadré par la Compagnie du Lézard. Donc, et il y aura donc un spectacle qui s'appelle Grac de Bro, la légende. Alors, Bro, c'est un petit village dans les Alpes de Haute-Provence, enclavé, c'est-à-dire une fois que vous prenez la route, vous arrivez là-haut et c'est l'impasse. Il y a plus de route une fois que vous êtes arrivé au village. C'est un petit village qui, durant les années 40-45, durant la guerre, a caché des Juifs. Personne n'a parlé et donc le maire du village, Antonin Grac, a reçu pour cela la médaille des Justes à titre posthume. Voilà. Et donc le spectacle retrace l'histoire de ce village durant toute cette période troublée. Voilà. Tous les événements tragiques et puis aussi, bon, on essaye d'y mettre un peu des traits d'humour. Et donc ça sera présenté par les élèves de l'atelier. Alors il y aura bien sûr tous les élèves de l'atelier adulte et puis quelques élèves aussi de l'atelier enfant-ado qui ont un petit peu plus d'expérience et qui donc proposeront ce spectacle qui est assez long, qui est quand même un gros spectacle avec vidéo, chansons et puis bien sûr théâtre.
D'accord, ça fait combien de personnes en tout qui participent aux ateliers ?
Alors, aux ateliers, en tout, ça fait... Il y a 16 élèves adultes et une dizaine d'enfants. Voilà, donc ça fait 25-26 élèves en tout.
D'accord.
Pas mal.
Annaëlle, participe aux ateliers ou pas du tout ?
Alors, j'essaye en fonction de mon emploi du temps, parce que c'est vrai que je suis étudiante à Mende, à l'université de... Donc après, oui, dès que je peux, oui, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des... C'est vrai que c'est très intéressant, il y a plein de choses à voir, surtout que je ne viens pas de la région. Donc c'est vrai que dès que je peux, ouais, j'essaie de m'investir au maximum.
D'accord, super. Il reste 2 spectacles avant la fin de la saison. Les stages, c'est fini ou on danse encore un petit peu ? On apprend à faire la cuisine ?
Les stages, c'est fini. Non, on peut pas tout faire. Hein. On essaie de faire en mieux, on peut pas tout faire. Voilà, les stages c'est terminé. Mais donc ensuite, le dimanche 25 mai 2014, il y aura donc un spectacle donc sur les états d'âme de Cléopâtre, qui est de la musique classique. Alors attention, c'est marqué Église de Badarou, mais en fait non, ce n'est pas à l'Église de Badarou, ça sera normalement à la Maison Chaptal de Nojaré. Voilà, donc faut nous contacter pour pour plus d'informations. Mais donc voilà, c'est un spectacle qui retrace la vie tumultueuse de Cléopâtre. Voilà. Et puis il y aura une expo photo de Pierre Plagne et Didier Bonal, qui sont donc des Badarousiens. Enfin, Pierre Plagne est Badarousien. Et donc il fait des photos sur la Lozère, qui ont, voilà, errance lozérienne, tout ça, voilà, c'est eux. Voilà. Et puis le 21 juin, bien sûr, on clôture avec la fête de la musique, donc avec l'ascenseur du rez-de-chaussée. Et également Galim. Et Galim, ce que je n'ai pas dit, c'est que le concert a été reporté le 26 avril aussi, prochain. Donc voilà. Donc,
d'accord, donc pas annulé, reporté.
Reporté, voilà. Il a été reporté. Et donc on retrouvera Galim encore le 21 juin, donc pour la fête de la musique, pour, voilà, pour la clôture de la saison culturelle.
Eh bien, très bien, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Annelle. On rappelle 06 80 55 41 41, c'est ça ?
C'est ça.
Donc pour le prochain spectacle qui arrive le 8 février, spectacle chez l'habitant, des textes déclamés par Alain Jahan. Et internet aussi, compagnielesarts@orange.fr.
C'est ça.
Voilà. Et il me manque le site internet que j'ai plus le temps de noter.
Le site internet, c'est www.compagnie-du-lesarts.tk.
Voilà, et également sur les réseaux sociaux pour retrouver
des vidéos, des extraits de chansons, voilà.
Et tout ça. Mais merci beaucoup, on en reparlera de façon régulièrement dans nos informations locales. Et on va faire une pause musicale. Guillaume qui me boycotte le Velvet Underground, tiens, non. Il m'a changé,
ouais,
je vois
j'ai
ça.
J'ai changé, ouais.
Super.
J'ai changé pour qu'on ait un petit peu plus de musique.
D'accord, bon, voilà. Ben, alors, je te laisse.
Et donc c'est Yael Naïm, Toulong.
I waited for so long outside myself. You see, I was pretending to be someone else. I was longing to see who I wanted to be. And I've been waiting on my own.
Touch it out of the sky.
48 FM Le Mag.
Et voilà, nous voilà repartis pour Le Mag. Donc on taira notre discussion entre les deux rubriques. On va parler plutôt de lecture, de littérature, donc avec Marie-Pascale Vincent, qui vient d'éditer chez l'Armatan Parole de Tunisienne, Le mur de la peur est tombé. Alors on peut dire que ça fait un peu suite au précédent ouvrage qui donnait la parole aux femmes du Burkina, c'est ça ?
Tout à fait, c'est un ouvrage paru il y a 2 ans et qui s'appelle « Femmes du Burkina ». Donc pour cette première expérience, je suis partie dans ce pays d'Afrique noire pendant 3 semaines, en suivant le travail de 2 associations, l'association Néré qui travaille sur le thème des jardins et de l'agroforesterie, et l'association Croque-Mitaine qui va dans les villages pour faire du théâtre avec les gens. J'en ai profité pour rencontrer des personnes qui pratiquaient ces activités et je les ai interviewées. Cela a donné un livre avec 10 de portraits de femmes, essentiellement axés sur les femmes en milieu rural. Avec Parole de Tunisienne, j'ai voyagé cette fois-ci uniquement avec le théâtre Croque-Mitaine, qui essaye donc d'aller faire des ateliers théâtre dans différents pays. Et j'ai cette fois-ci rencontré des femmes de Tunis, des femmes engagées dans les mouvements associatifs et la société civile. On s'est rendu à Tunis en novembre 2012, soit à peu près 1 an après la révolution, le printemps arabe.
D'accord. Les associations dont vous venez de nous parler, les 2 premières, c'est des associations cévenoles, c'est ça, pour le Burkina ?
Oui, Néré est basée sur Sainte-Croix, vallée française, et Croque-Mitaine est à la fois présent en Belgique et dans les Cévennes.
D'accord. Pour l'association Croque-Mitaine, oui, voilà, c'est celle qui vous a amené en Tunisie, c'est ça ?
Voilà. Ils étaient partis faire monter un spectacle suite à la Révolution. Et Rita, avec qui j'ai de très bons contacts, avait prospecté pour moi et déjà réuni une liste de femmes que nous sommes allées interviewer en passant 10 jours là-bas.
D'accord.
Et comment ça se passe justement cette interview ? C'est une discussion ? C'est un rendez-vous ? C'est une discussion plus une vie ? Vous partagez une journée avec ces femmes ? Comment vous vous nourrissez finalement de leurs expériences ?
Alors, il peut y avoir un peu tout ce que vous venez de dire. Au Burkina, j'ai plus spécialement suivi les femmes dans leurs activités quotidiennes, la fabrication du savon, la teinturerie, le jardinage, aller au marché. En Tunisie, on disposait d'un temps beaucoup plus bref. Donc, c'était plutôt des interviews classiques autour d'une table. On discutait à la fois du parcours de vie, à la fois de l'actualité, pour essayer de faire un reportage qui mêle un peu ces 2 aspects.
Et vous partez d'un matériau, vous prenez des notes, vous enregistrez
Je travaille à l'ancienne école, si on peut dire, je prends des notes. En Tunisie, j'avais également enregistré. Ça a sûrement influencé aussi mon travail d'écriture. C'est-à-dire qu'en rentrant, j'ai écouté les bandes et j'ai souhaité rester très près de la parole des femmes, un peu à la façon d'une ethnologue. Peut-être que ça a aussi ses inconvénients. C'est au lecteur de le dire et de juger tout ça.
D'accord. Alors justement, dans quelle situation se trouvent ces femmes à l'heure actuelle dans cette société tunisienne où on n'y voit pas vraiment clair finalement avec tous les événements qui se passent, on a l'impression que ça évolue beaucoup dans un sens comme dans l'autre.
Je crois que la période que traverse la Tunisie depuis novembre 2011, on a parlé de révolution, il faudrait parler de processus révolutionnaire, c'est-à-dire que les choses ne se font pas comme ça en 3 jours, on renverse un gouvernement et une nouvelle société apparaît. C'est quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qu'il faut construire ensemble. Si on pense à la révolution, aux révolutions françaises, c'est un processus qui peut prendre des années et des années. Et ces femmes qui sont pour la plupart engagées dans la société civile, je crois, ressentent ce sentiment-là. C'est sur la longueur que les choses vont changer. Rien n'est gagné, rien n'est acquis. Une révolution, ça va de l'avant, ça retourne en arrière. Et il ne faut pas perdre l'espoir, même si ce n'est pas évident. Il faut tenir le cap. Et ce qui m'a énormément frappée, c'est que toutes ces femmes ne font pas forcément confiance aux partis politiques, aux institutions. Elles ne comptent sur personne pour changer leur pays, si ce n'est sur leur propre force. Et quand elles ont une idée, ben, elles n'attendent pas qu'une subvention leur tombe dessus. Elles prennent les choses en main, elles trouvent un ordinateur, elles trouvent une camionnette et elles lancent les choses immédiatement parce que pour elles, il y a urgence. Et elles sont dans un sentiment d'urgence. Je crois que tous les événements qui se sont déroulés depuis un an, l'assassinat de deux opposants politiques, des mouvements sociaux parfois violents, des problèmes économiques exacerbés, une corruption qui continue d'aller de l'avant, je crois que la situation est aujourd'hui encore très critique. Un coup, on croit que les choses vont dans le bon sens. Par exemple, Ennahda, le parti islamiste, a démissionné dernièrement du gouvernement pour laisser place à un gouvernement de technocrates chargé de voter enfin la Constitution, de mettre en place les prochaines élections. C'est quelque chose qui va de l'avant. En même temps, Ennahda se retirant du pouvoir 6 mois avant les élections, c'est aussi une façon d'essayer de se refaire une image sur des choses qui n'ont pas réussi. La Constitution... finalement, on tourne le dos à la charia, reconnaît un État laïque. Mais par contre, il y a des choses dont les femmes que j'ai interviewées ne sont pas satisfaites, sur l'éducation, la justice. Donc, pour la majorité de ces femmes, je crois qu'aujourd'hui, la Tunisie se débat entre deux visions d'une société et que ça va tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, que rien n'est encore gagné.
Oui, parce que finalement, au niveau des libertés, est-ce qu'elles sont plus libres qu'avant ? Est-ce que ça évolue, ça ?
Oui, je crois que ce qu'elles disent toutes, c'est le gain de cette révolution, c'est le gain de la liberté d'opinion, la liberté d'entreprendre. Et c'est un élément quand même très, très important, qui est fondamental. Après, ce que la révolution n'a pas changé, c'est le quotidien des gens. Il y a déjà 3 ans, les gens avaient des difficultés économiques, ils se débattaient pour survivre. Et cela reste vrai aujourd'hui, c'est peut-être même encore plus difficile.
Quels sont les profils de ces femmes, pardon, quels sont les profils ? Je me rappelle que sur le livre des femmes du Burkina, il y avait des profils complètement différents. Pour ces 10 femmes, c'est 10, c'est ça ?
C'est 13 femmes.
Ces 13 femmes, on retrouve quoi comme profil ?
Alors, on retrouve beaucoup de femmes profession libérale, profession supérieure, artiste, directrice de théâtre, une députée élue par les Tunisiens de France, une avocate. Donc, le champ est peut-être moins étendu et moins large, mais à côté de ces rencontres, qui ont été un peu des rencontres programmées, on s'en est également remis au hasard. Et on a rencontré une femme qui travaille comme secrétaire et qui est femme de flic, qui était ce jour-là dans la Médina. On a interviewé aussi une femme de chambre qui nous livre des regards différents. Et il y a une personne que je connais bien qui m'a accueillie là-bas en Tunisie, Jean-Claude Villain, un écrivain, qui me disait, pas plus tard qu'hier, que finalement c'était un portrait de la Tunisie qu'il arrivait à lire dans cet ouvrage. Voilà, parce qu'on a aussi donc mis des femmes plus âgées, des plus jeunes, des étudiantes qui travaillent auprès des ados, qui travaillent auprès des personnes âgées.
Non, c'était pour rebondir tout à l'heure sur l'actualité de la Tunisie. Peut-être que dans les difficultés, il y a aussi le fait que les touristes ne viennent plus, qu'une partie de l'économie se grippe. Et donc, finalement, c'était sur cette difficulté-là, je n'ai pas forcément...
Voilà. Et ce qu'il est très important de rajouter sur la condition de la femme en Tunisie, c'est que cette condition dépend très fort de la classe sociale auquel on appartient. Quand on fait partie de la bourgeoisie, des milieux aisés, eh ben, en tant que femme, on peut mener la vie que l'on veut. Les femmes sont habillées à l'européenne, elles travaillent, elles font des crédits pour leurs entreprises, pour le besoin de leurs entreprises. Ce sont des femmes très libres, on ne voit pas la différence avec nous-mêmes européennes. Mais plus on descend dans l'échelle sociale, plus on a l'impression de se retourner vers un pays d'Afrique, avec la misère dans les rues, les difficultés pour être indépendante, le fait de devoir obéir à la famille. Et entre ces deux extrêmes se trouve toute une frange de femmes également qui un peu à la façon de la société tunisienne, comme je le disais tout à l'heure, aussi entre l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'elles font des études, elles ont des métiers, mais elles ne peuvent pas se promener avec leurs petits copains dans la rue, fumer des cigarettes en public, boire un verre de vin. Voilà, donc on retrouve toute une frange qui navigue entre ces deux extrêmes.
Et ces différences, on les ressent dans les différents portraits. Vous avez pu justement toucher à la fois les différents types de femmes que vous définissez à l'instant.
Oui, j'ai l'impression, parce que si on pense à Znieb Farhat, qui est directrice de programmation du premier théâtre privé de Tunisie, c'est évidemment une femme émancipée qui vit à l'européenne. Quand on prend le portrait d'Aïda, qui n'a pas pu se marier, qui vit avec ses parents, qui n'ont pas de revenus, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, elle porte le voile, elle n'a pas participé aux événements de la Révolution. Et entre les deux, eh bien, il y a aussi des femmes qui se cherchent et qui cherchent à affirmer leur indépendance. Il y a d'ailleurs une femme qui a refusé que son témoignage soit dans le livre, un petit peu pour ces raisons, parce qu'elle racontait des choses qui, finalement, ne se disent pas en public et elle n'avait pas envie d'être reconnue. Donc, on a respecté ce qu'elle demandait, on a enlevé son portrait.
Ça veut dire que les personnes avec qui vous êtes entretenues ont relu la partie qui les concerne.
Oui, et voilà, j'ai procédé de la sorte, parce que la Tunisie, c'est quand même un pays qui m'est étranger et je crois qu'il y a des choses à respecter. Quand on fait un travail de journaliste, des barrières qu'on peut passer sans franchir sans s'en rendre compte. Et cette relecture était pour moi importante.
Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont étonné?
Il y a par exemple le témoignage d'Olfa, une blogueuse qui appartient vraiment à la bourgeoisie tunisienne et pour qui la révolution a changé sa vie, ça lui a ouvert les yeux sur le fait qu'il existait en Tunisie des peuples différents qui se côtoyaient, qui ne se connaissaient peut-être pas. Et elle a un propos très libre, elle parle justement de sa relation avec les hommes. Elle est célibataire, elle a plus d'une trentaine d'années. Et elle raconte tout ça en disant qu'elle a plus d'amis dans les milieux européens qu'en Tunisie, qu'elle partage plus de choses avec les Européens qu'avec les Tunisiens, qui ont peut-être parfois une parole bridée. Et c'est un portrait assez étonnant, voilà.
Très bien. Alors, vous avez commencé dans l'écriture, si mes souvenirs sont bons, en parlant des affaires criminelles de Lozère, c'est ça, et d'Ardèche après.
Voilà.
Et vous avez pris un virage pour donner donc, la parole à ces femmes du Burkina, de Tunisie maintenant. Pourquoi qu'est-ce qui vous pousse à aller vers ça, vers ces sujets, vers ces thèmes?
Ça a été un peu un hasard. En fait, j'avais depuis longtemps envie d'aller en Afrique noire et j'ai eu l'occasion de partir avec Rita, donc comédienne, et elle avait décidé de faire un voyage de femmes parce qu'elle voulait travailler avec les femmes là-bas et que c'est plus facile de femme à femme. Du coup, je me suis dit, ben voilà, je pars avec ce que je sais faire, mon appareil photo, mon stylo, et il s'est trouvé que j'ai fait des portraits de femmes. Et ensuite, j'ai eu envie de continuer. Après, je n'ai pas tout à fait abandonné, non pas les affaires criminelles, mais cette fois-ci les légendes et les mystères, puisque j'ai sorti l'année dernière un livre sur les mystères du Gard. Et c'est...
Mystérieux le Gard.
Voilà.
On ne les comprend pas.
Surtout les Lozériens. je crois que je suis attachée aux deux aspects de mon métier, parce que donner la parole aux gens, retranscrire la parole des gens, c'est l'essence même du journalisme pour moi. Et ensuite, toutes ces histoires criminelles, ces mystères, ces légendes, c'est davantage aller vers la fiction. C'est quelque chose que j'aime beaucoup également et que j'essaye aussi de développer. Je suis par exemple en train d'écrire une petite histoire pour une exposition commandée par la région. Voilà.
D'accord, super. La différence entre les deux livres que l'on peut rapprocher, ces témoignages de femmes de Tunisie et du Burkina, c'est que le Burkina, donc, c'était des femmes de milieu rural plus que ces femmes tunisiennes qui sont vraiment ancrées dans les villes.
Tout à fait, et qui sont quand même pour la plupart engagées dans les mouvements associatifs et la société civile, et qui se battent de façon active et prégnante pour leur pays.
D'accord, il y a beaucoup de différences entre les femmes burkinabèses et les femmes tunisiennes, où au final on retrouve les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes combats?
Il y a quand même un gros écart entre les deux sociétés, un écart économique, surtout qu'en Tunisie, je suis restée à Tunis. Et c'est quand même Tunis, malgré tout, on reste dans une ambiance proche de l'Europe. Au Burkina, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Et quand on se retrouve dans la brousse, la parole des femmes ou ce à quoi aspirent les femmes, c'est arriver à vivre demain et à gagner de quoi manger pour leurs enfants.
Et oui. Le livre qui est toujours disponible, c'était chez L'Harmattan aussi
Voilà, les deux livres sont parus chez L'Harmattan.
Très bien. Donc L'Harmattan, on a un contact, un site internet, vous le connaissez, pour pouvoir commander ces ouvrages
Je ne connais pas l'adresse par cœur, mais si on tape L'Harmattan, vous tombez tout de suite
on
dessus.
Trouvera.
Ou voilà. Sinon, il faut aller chez sa libraire.
Il faut aller chez sa libraire.
Et commander le livre, il n'y a aucun problème.
Voilà. À la lorgnette.
Surtout pas chez Amazon.
Voilà.
J'ai également un site internet où vous trouverez des photos, des reportages des Tunisiennes. Donc www.journaliste-en-seven.com.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour ce témoignage. Et donc, livre, bien sûr, à retrouver, que je n'ai pas encore lu. J'ai lu celui d'avant. On vous conseille, bien entendu, de sauter sur l'occasion pour fêter. Les fêtes de Noël sont passées, malheureusement, mais on a toujours... Voilà, on peut fêter des naissances, on peut fêter en offrant des livres, par exemple. Merci beaucoup, on va faire une nouvelle pause musicale. On ne va pas partir dans la brousse, mais au Blémard, avec nos amis de Rude Boy Crew, pour évoquer la saison culturelle après Noir Désir à Ton Étoile.
48 FM Le Mag.
Les dernières parties de l'émission avec Rude Boy Crew qui vient de sortir sa saison culturelle. On a l'habitude, c'est de janvier à septembre, hein, on peut dire ça, Sébastien ?
Tout à fait, on peut dire ça.
Voilà, avec un premier spectacle, une sortie de résidence qui a été programmée le 24 janvier.
C'est ça. En fait, notre saison culturelle, elle a un peu évolué après la 10e édition du Festival d'Olt. On veut s'ancrer plus sur le territoire, sur les relations entre les artistes et les habitants, parce qu'on a conscience que ça peut changer les choses localement, dans les relations entre les villageois. Donc du coup, on a décidé d'augmenter la part des résidences à l'année, donc voilà, pour soutenir la création, en direction des arts de la rue et des musiques actuelles. Donc là, on a une première résidence avec une compagnie du Gard, un autre mystère du Gard. Donc la compagnie Ratatouille Théâtre qui vient une semaine, là, qui est arrivée dimanche et jusqu'à samedi 25 janvier, pour un spectacle qui s'appelle Machenka. C'est une farce de rue, c'est des marionnettes de rue. Ça va être un voyage sous forme d'un voyage en train dans le XXe siècle, donc avec toutes les espèces de tensions historiques, des moments charnières là, qu'il y a eu dans les années 30 et puis après la guerre également. Voilà, sous forme d'un spectacle de marionnettes qui va beaucoup bouger. Voilà, avec un regard, le directeur artistique de la compagnie, il a un regard très sarcastique sur les choses, donc avec un ton, un humour noir, des choses comme ça.
La compagnie Ratatouille Théâtre qui était déjà venue chez vous ou pas ?
Oui, qui est une grande habituée de chez nous. Donc ils sont venus jouer Marcel Poudre chez nous, il y a 48e de rue aussi. Et puis dernièrement sur le plateau radio avec Radio Bicarbonate. Voilà.
D'accord, donc là ils viennent travailler sur ce spectacle pendant combien de temps ? Parce que je vois qu'ils sont de retour aussi en février.
Voilà, là c'est leur première semaine de résidence de création ensemble, c'est-à-dire c'est vraiment le texte est écrit. Le texte est écrit par Alain Guyard en collaboration avec Michel Lafon. Et donc là, c'est leur première semaine de travail. Ensuite, ils vont travailler chez nos amis des Elvis Platinés Vers Humaine. Et puis, ils reviennent fin février pour retravailler avec nous et montrer le rendez-vous public du 28 février sera plus intéressant sous forme de pré-spectacle que le rendez-vous public de vendredi qui vient.
Voilà, parce qu'après chaque passage, ils montrent au fur et à mesure l'évolution du spectacle, c'est ça ?
C'est le principe, oui. Puis de clôturer la résidence aussi par un moment convivial avec les gens rencontrés dans la semaine, parce que mine de rien, une équipe artistique dans un village comme le Blémard dans l'hiver, ça change un petit peu la vie du village aussi, donc il y a des rencontres qui se font, et voilà, les habitants sont les bienvenus à chaque fois.
Oui, donc en fait, d'une certaine façon, vous invitez aussi les habitants à suivre cette démarche artistique, d'une certaine façon, de création d'un spectacle avec ces différents rendez-vous, finalement, qui vont rythmer les quelques mois qui viennent.
C'est exactement ça, c'est exactement le principe. La salle de travail est toujours ouverte. Il se passe plein de rencontres. Alors, après, on a des rencontres formelles avec les enfants du collège là, qui vont venir deux fois, enfin, qui vont suivre les deux semaines de résidence. Et après, on a plein de rencontres informelles, notamment autour des moments des repas qui sont importants. Si on a rencontré des gens dans le village, on peut les inviter à venir manger avec nous. Et puis, c'est aussi une manière de démystifier un peu la relation à l'artiste, quoi.
Alors, c'est pas la seule résidence d'artiste que vous programmez dans l'année, hein ?
Non. Ensuite, on en a une au mois de mars qui se fera à Bagnoles-les-Bains. Une résidence d'une toute jeune compagnie qui s'appelle La Mouette à trois queues, autour d'un projet musique et art de rue et vidéo. Donc eux, ils travaillent un nouveau genre de karaoké. C'est un karaoké rock où il y a un DJ à l'extérieur qui invite des gens à choisir des morceaux dans une playlist, rentrer dans un studio d'enregistrement. Et là, donc, les gens chantent dans un studio d'enregistrement devant un écran vert. Et à l'extérieur sont projetés le karaoké en direct avec un clip qui est projeté derrière eux. Et le côté intéressant de la résidence, c'est que les clips vont être faits par les habitants de Bagnoles-les-Bains, du Blémard, par les enfants du centre de loisirs. Voilà, ils travaillent le côté atelier vidéo vraiment dans la semaine. Et puis ça va être aussi sur la thématique de la thématique scénographique du Festival d'Olt 2014, qui sera autour du voyage.
D'accord, superbe idée de ce karaoké interactif en mettant à contribution les habitants. Ça, c'est en mars, c'est Croque, c'est ça ?
C'est Kakaroké, oui.
Kakaroké.
Du 2 au 8 mars, un karaoké rock.
Ça, c'est pour ça que je dis Croque maintenant.
Il y a une sortie, il y aura un rendez-vous public le 8 mars au théâtre de Bagnoles-les-Bains, une boom publique parce que le rendu quand même fait boom. Voilà, parce que c'est quand même des. Si on veut chanter, c'est plutôt des tubes qu'on connaît un petit peu tous.
Tu es pour Ariel et Guillaume.
Ouais.
Toi qui aimes chanter.
C'est ça.
Troisième résidence d'artiste, parce qu'on est fou au Blémard. Et,
oui, on enchaîne. Donc, juste après la résidence de la Mouette à Trois Queues, on aura Vandaval, qui était venu l'année dernière sur une création danse au Blémard, un spectacle qui s'appelait La mer dans un verre. Là, donc, Carmela revient avec sa nouvelle création, qui s'appelle Sous la poussière, qui est un solo de danse pour la rue. Voilà, elle va travailler aussi avec une scénographe plasticienne qui va travailler sur l'espace de jeu dans la journée. Et le spectacle se fera en soirée. C'est un spectacle qui parle des survivants de la Shoah, donc un sujet éminemment comique. Voilà, donc comment ces gens-là ont réagi après. Certains qui ont fui, certains qui sont tombés en dépression. Voilà, c'est un personnage fictif qui s'appelle Hélène Miller et qui va se servir un petit peu de plein d'écrits voilà, sur cette thématique-là.
D'accord. Sous la poussière, un verre dans la mer, c'est programmé à la petite roulotte cette année, c'est ça ?
Non, la mer dans un verre, c'était programmé l'année dernière au Festival d'Olt.
Au Festival d'Olt, c'était.
Oui.
D'accord. Donc, trois résidences d'artistes, quand même. Ça, c'est une volonté aussi, tu l'expliquais, ce lien entre la population. Et même pour vous, c'est gratifiant d'aider des compagnies à créer un spectacle ?
Oui, c'est gratifiant pour nous aussi. Mais ça, enfin, voilà, pour nous, ça correspond à ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'on a envie de développer localement. C'est important que les artistes, ils restent minimum une semaine. C'est pas comme quand des fois ils viennent jouer un spectacle, ils arrivent la veille, ils repartent le lendemain. Voilà, on a les rencontres, les découvertes au cœur de notre projet. C'est ce qui l'enrichit et c'est une évidence pour nous tous dans l'assaut que c'est ça qu'on a envie de faire.
Et donc les artistes sont accueillis chez les membres de l'association. Comment ça se passe cette vie pendant vous avez un lieu particulier pour les accueillir, comment ça s'organise pratiquement ?
Alors, on leur fournit un logement en gîte, et puis la rencontre avec les membres de l'association, elle se fait essentiellement autour des repas, autour des fois, sur certains projets, autour d'un regard. Ils nous sollicitent aussi pour regarder des moments de création, pour donner notre avis. Mais le moment très fort, il est sur les repas, c'est-à-dire que c'est des bénévoles de l'asso qui font à manger midi et soir, et c'est aussi des belles découvertes culinaires, parce que les gens qui viennent pour faire à manger, ils ont envie de marquer le coup. Et c'est toujours une belle réussite là-dessus.
D'accord. Donc, on vient de parler de trois résidences d'artistes. C'est fini ?
Eh bien non, parce qu'on a une résidence à l'année avec une compagnie de Lod qui s'appelle la compagnie du Dandy Manchot.
J'aime beaucoup ce nom.
Oui, moi aussi. Donc, c'est une compagnie qui tourne autour d'un personnage qui est un dandy. Un dandy, c'est quelqu'un qui est un peu désuet, qui est plutôt du début du siècle, qui a un certain raffinement dans son apparence. Mais il y a aussi un côté un petit peu d'ironie par rapport à la bourgeoisie. C'est-à-dire que dans les différentes définitions qu'on trouve du personnage du dandy, c'est ça, c'est quelqu'un qui utilise les codes de la bourgeoisie pour s'en moquer. Et donc du coup ce personnage là qui est au centre de cette compagnie, c'est quelqu'un qui travaille les racines, c'est-à-dire la mémoire d'un lieu, la mémoire des gens et les espaces naturels. Donc du coup quand on a rencontré cette compagnie, quand on sait où on fait nos actions, on s'est dit qu'il y avait un travail à faire avec eux. Donc on fait un travail autour des relations entre les hommes et les hommes avec un grand H, hein, bien sûr, et les paysages. Voilà, comment l'un et l'autre ont interagi au cours du XXe siècle, jusqu'à maintenant, en partant de la guerre de 14-18, parce que ce personnage-là du Dandy Manchot a un fort lien également avec la guerre de 14-18. Donc du coup, il y a aussi la diffusion d'un spectacle qui parle de la guerre de 14-18. Et puis le projet va se terminer en septembre dans le cadre des Journées du patrimoine, sur une balade qui va partir du Blémard pour aller jusqu'à la station du Mont-Lozère. Voilà, une randonnée spectacle, quelque chose qui va durer 3 heures, qui devrait être un grand moment, avec une équipe artistique autour de 12 personnes.
D'accord, donc une résidence d'artiste d'une année. Combien de fois la compagnie va revenir un peu travailler chez vous ?
Alors, ils viennent en tout 4 semaines sur 3 périodes différentes. Voilà, il y a une fois où ils mixent 2 semaines d'affilée sur deux projets, enfin sur la reprise du secteur postal 212, qui est le spectacle sur la guerre 14, et la continuité du projet sur la balade.
D'accord, très bien. Au-delà donc de ces quatre résidences d'artistes, on le rappelle, une à l'année et trois autres qui reviennent régulièrement, l'association propose, dans le cadre de cette saison, deux spectacles ainsi que le Festival d'Olt, c'est ça ?
C'est ça. Un premier spectacle qui est un spectacle détourné, qui est encore une fois notre volonté de jouer avec le patrimoine. Et puis c'est aussi en février, on va fêter les 10 ans de la création officielle de Rude Boy Crew. Donc même si on aura une semaine d'avance, le dimanche 16 février, on convie les gens à un grand loto, le loto des 10 ans de Rude Boy Crew. Et donc ça sera un vrai loto traditionnel, mais animé par la compagnie Humani Théâtre. Donc voilà, l'idée c'est quand même ça sera un vrai loto avec des vrais lots à gagner, d'autres choses qui peuvent être des petites entourloupes, mais il y a quand même des vrais lots à gagner. Et voilà, c'est l'idée de jouer avec, parce que ça fait partie de notre patrimoine, hein, le loto, je crois, maintenant. Donc c'est aussi pour ça que c'est un dimanche après-midi. Voilà.
Oui, Humani Théâtre, qu'on avait vu dans une formidable pièce l'an dernier, ici même en Lozère. Et donc là, qui va changer de registre, parce que je suppose que ça va être un peu plus humoristique que... C'était l'attentat qui s'était venu jouer.
Humani Théâtre, l'année dernière, ils étaient en résidence à l'année chez nous aussi, donc oui. Avec quatre projets différents. Enfin, voilà, ils étaient un peu dans Dimanche de l'année dernière. Quand ils nous ont parlé de ce concept de l'auto, des tournées, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse.
D'accord. Donc, premier spectacle. Second spectacle.
Alors, second spectacle, samedi 22 mars, dans le cadre du festival La Petite Roulotte, une soirée publique familiale, donc deux spectacles entrecoupés d'un repas. On est en train de finaliser la programmation, donc on ne pourra pas vous dire ce que c'est. Ça fait 4 ans qu'on s'est engagé avec La Folle pour proposer une soirée au Blémard dans le cadre de La Petite Roulotte. C'est devenu un rendez-vous incontournable de notre hiver, le principe d'un spectacle, le repas, un spectacle. Dans la mixité entre les gens, les rencontres, enfin voilà, il y a quelque chose qui est magique dans une soirée qui fonctionne très très bien.
Il y avait eu du monde l'an dernier, je me souviens, ça marche très bien, ouais, ce principe spectacle, on fait une pause pour manger, vite hop, on change toute la scène pour reproposer autre chose. Avant de parler du Festival d'Olt, on va peut-être laisser la parole à Sophie Arlotto, donc qui s'occupe de la scénographie, de tout ce qui est visuel. Ça fait quelques années on voit tes affiches, la scénographie prend de plus en plus de place. Peut-être te présenter, nous expliquer un peu ton travail.
Alors, moi, je suis scénographe de formation. J'ai étudié à Nantes et puis je suis revenue un peu aux origines parce que je suis un peu une lozérienne de cœur. J'ai un peu grandi dans le coin en vacances et donc voilà, je connaissais le Rude Boy depuis un petit moment. Donc, j'ai commencé à me greffer petit à petit sur le festival, d'abord sur un travail graphique, donc pour la première affiche que j'ai faite il y a 4 ans. Et puis l'année d'après, j'ai décidé de mettre les mains à la pâte un peu et de commencer petit à petit un travail de scénographie. Donc la première esquisse de ça, ça a été les fonds marins, donc pour le festival d'Olt 9, donc qui était un détournement des fonds marins version déchetterie. Voilà. Et puis l'année dernière, on a continué l'esquisse et on l'a bien poussée, c'est-à-dire que on a commencé un travail plus en amont dans l'année avec toute une sensibilisation autour du blémard via des collectes de matériaux, des choses comme ça, des ateliers un peu participatifs pour construire une scénographie ensemble. Donc l'année dernière, c'était sur le thème du voyage dans le temps pour fêter les 10 ans du Rude Boy un peu par une manière un peu détournée. Et puis cette année, on va essayer de pousser le bouchon encore plus loin, en partant sur la thématique du voyage tout court. Voilà, on a décidé qu'on allait faire voyager les gens en 3 jours, donc faire le tour du monde en 3 jours, mieux que Jules Verne. Et donc voilà.
D'accord, la scénographie, c'est du travail manuel de bricolage, c'est de l'infographie qu'on va imprimer, comment tu travailles exactement ?
Alors, ma démarche, elle est d'abord de trouver une thématique générale pour le festival. Je la décline d'abord en visuel pour créer tout ce qui est affiche et univers graphique du festival. Et puis, une fois que j'ai trouvé mon concept de visuel, je la décline en scénographie. Donc ça, je travaille beaucoup en croquis, sur informatique aussi, des petits montages Photoshop, tout ça pour transmettre un peu les images que j'ai en tête à tout le reste de l'équipe. Et puis une fois qu'on a un univers qui tient à peu près debout, voilà, je transmets pas mal et on s'attaque à la construction. Donc là, aujourd'hui, on a attaqué exactement le rangement de l'atelier et les premiers pas de construction.
C'est pour ça que Sophie est en bleu de travail.
Voilà, je ne sais pas si vous avez vu les affiches, Sophie qui a beaucoup de talent au niveau graphisme. Hein, il y a vraiment une patte particulière, non, je le pense vraiment. L'autre Sophie, tu as vu les...
Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé le travail immédiatement de Sophie. En prenant les prospectus de Rude Boy, tout ça, j'ai vraiment de suite accroché. Je trouvais qu'il y a quelque chose très sympa, un univers vraiment... vraiment intéressant. Donc et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque année, on sent toujours la continuité derrière ça, et ça, pour au niveau communication, je trouve ça très très fort. Donc bonne continuation, parce que vraiment c'est un super travail.
Et voilà. Merci beaucoup.
Et attention, tu vas te faire embaucher par Winux.
Ouais, je crois, ouais.
Ça risque. Maintenant, y compris donc ce festival Dolt qui est rattaché à cette scénographie, c'est extrêmement important depuis 2-3 ans, ce principe, Sébastien.
Oui, pour nous, il y a quelque chose qui est important dans le festival Dolt, c'est comment on accueille le public, comment on le prend en considération. Et la scénographie en fait partie, Parce que quand on accueille les gens dans un univers où les gens voient qu'on s'est démené pour leur proposer un univers et les amener ailleurs, il y a direct un respect de la part des gens. Maintenant, ça fait vraiment partie du projet du festival. Et je dirais que c'est même presque à l'année, sur des exemples tout bêtes, quand on accueille les artistes en résidence, les loges, maintenant, il y a aussi Sophie qui met sa petite patte, qui nous pousse aussi, nous aussi, à soigner tout le temps cet accueil-là. Je pense que ça fait partie maintenant de la patte de Rude Boy Crew sur ce qu'on fait, quoi.
Oui, totalement. Le voyage, c'est qui l'a décidé? C'est Sophie qui l'a proposé? C'est vous qui l'avez proposé? Vous êtes entendu?
Alors ça, c'est moi qui l'ai décidé en discussion toujours avec mon coéquipier principal en scéno, là, qui est Yann, qui est un constructeur fou, avec qui on discute pas mal pour établir les thématiques, qu'on se régale ensemble à construire un univers. Et donc on va partir sur le voyage. On va se transformer en opérateur aérien, donc la compagnie Holt Airlines. Donc on va vous faire le tour du monde en se transformant en hôtesse de l'air et en pilote de ligne. Et voilà, donc on va essayer de partir de ce postulat de départ et de le faire un petit peu... dévier de manière loufoque et décalée, comme on sait si bien faire, avec un petit brin de poésie. Voilà, et toujours, ce qui est important pour nous, c'est le côté participatif. Donc, autant dans la construction que dans l'accueil du public. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la participation via des collectes de matériaux, tout ça, et via aussi, dans l'accueil du public sur le site, on essaye de faire pas mal de machines participatives, donc à manipulation du public. L'année dernière, c'était l'orga fumée qui a bien éclaté tous les festivaliers qui ont pu remplir de fumée le chapiteau. Et cette année, ça va être d'autres petites surprises. Voilà.
Voilà.
Et on va retrouver le voyage dans la programmation aussi ou pas?
Alors oui, ça qui est drôle, c'est que du coup, on choisit la thématique avant la programmation. Donc forcément, ça oriente. Après, on fera pas...
Désirless.
Exactement.
Désirless sera présente dans le cacaroquet. Le cacaroquet sera présent au Festival d'Ode pendant une soirée sous le chapiteau bar, par exemple. Donc c'est sûr qu'il y aura du Désirless. Mais elle ne viendra pas en concert, par contre.
Ok. Et bon, les spectacles, on ne va pas les dévoiler parce que de toute façon, vous êtes en cours de travail. Hein. C'est que le 29, 30 et 31 mai.
On peut dire qu'il y aura Sous la poussière de Compagnie Vendaval, qu'il y aura donc le cacaroquet, le secteur postal 212 de la compagnie du Dandy Manchot. On retrouvera la création qu'on avait accueillie l'année dernière en résidence de Gérard Tempête. On la retrouvera pour leur première représentation. Donc il y a la moitié, on va dire, des spectacles de rue qui sont des spectacles qu'on a accueillis en création. Et nous, c'est, on va dire, le Festival Dolt est notre temps de diffusion large des programmes, enfin des compagnies qu'on accueille en création.
Ok. Concernant les concerts, c'est toujours même optique, c'est même principe.
Même principe, même optique, avec possibilité de un peu plus croiser les disciplines entre art de la rue et musique actuelle sur soirée, journée. Voilà. C'est notre envie. C'est pas encore certain de tout, mais c'est notre envie.
Voilà, mais il va falloir attendre parce que c'est que le 29, 30 et 31 mai prochain. Pour plus d'informations, www.festivaldolt.org. Un numéro de téléphone également, le 04 66 45 20 50. 04 66 45 20 50. Prochain spectacle, donc, c'est la compagnie Ratatouille Théâtre pour Matchenka, mais c'est le tout début, donc tu nous l'as bien précisé, c'est le tout début de leur travail, donc bien sûr, c'est pas finalisé. Il faudra peut-être revenir le 22-28 février, ça vous empêche pas déjà d'avoir un premier aperçu donc, qui va arriver bientôt. Et pour le festival Dolt, donc, ouais, on le redit, 29, 30 et 31 mai, on vous dira au fur et à mesure, toujours pareil comme pour la compagnie du Lézard, dans nos informations locales, les spectacles qui viennent de cette saison. Merci beaucoup Sébastien et Sophie.
Merci à vous.
Merci beaucoup aussi à nos deux premiers invités qui sont restés là tout le long, bien attentifs. Et on remercie nos auditeurs.
Oui, et au puis niveau on des se rendez-vous. Donne rendez-vous la semaine prochaine donc, pour ce mag spécial éducation autour de la refondation de l'école. Donc voilà, vous retrouverez Nico et Ludo pour ce mag spécial. Et puis bah, voilà, toutes les émissions continuent. Pas d'émission musicale particulière cette semaine ?
Non, demain, Eri Song qui sera consacré à la musique trip-hop. Rock'n'Roll Diaries, c'est mardi prochain à 20h, c'est Nal Young. Bien sûr, Venezuela Latina, chaque jeudi sur la musique vénézuélienne. Et Traigo Salsa, le salsa le samedi. Va comme je te pousse, qui va venir nous proposer une émission bientôt. Ça sera samedi dans 2 semaines. On est en travail dessus. Et voilà.
Et puis Actuel et lui.
Actuel et lui,
jeudi,
and friend.
Jeudi midi et demi. Et non pas and friends. Le and friends, il sera enregistré pour dans très longtemps. Donc on sera. Avec l'émission de la semaine dernière, jeudi à midi et demi, et mardi et ce soir à 18h11, bien sûr.
Très bien. Eh bien, bon après-midi sur 48FM. Encore merci à tout le monde. Et on se quitte et on va retrouver les Fatal Picard qu'on n'a pas pu écouter tout à l'heure.